Alors, je suis spécialiste de physique, statistique, mathématiques et de questions de vitesse de convergence dans des problèmes de physique statistique. J'ai également beaucoup bossé sur des problèmes qui mélangent optimisation, géométrie, calcul des variations, entropie, tout ce genre de choses. Ce dont je vais vous parler, c'est pas un sujet dont on peut dire que je suis spécialiste du tout, et certainement que sur beaucoup des secteurs que j'aborderai, il y aura dans la salle quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, mais c'est un sujet dans lequel il y a plein d'ingrédients qui ressemblent à ce que je fais, et c'est un sujet auquel je me suis intéressé dans des circonstances particulières, au moment où ma femme faisait sa thèse chez Sarah Samadi au muséum, a été citée il y a quelques jours dans un des exposés, Sarah Samadi. Et le sujet de la thèse, c'était de l'inférence bayésienne sur des paramètres démographiques au moyen de Monte Carlo Markov chain. Et donc, on va vous parler un peu de ça. Et à l'époque, donc, je m'étais intéressé de près à la chose, et en particulier, à un moment, une étape importante de la thèse, c'était de modifier un programme qui existait à l'époque et qui était le top du top, c'était il y a 15 ans ça peut-être, en reconstruction MCMC. Et le programme est arrivé, un beau programme avec tout, il faisait tout comme il fallait, avec tous les paramètres qu'on veut. Et zéro commentaire. Et les variables s'appelaient AA, BB, CC et ainsi de suite. Alors, c'est à moi qui est revenue la tâche de faire l'engineering reverse, de comprendre exactement ce que faisait le programme. J'y ai passé un certain nombre de nuits. Et à la fin, j'avais rajouté les commentaires. Le programme avait doublé de taille, évidemment. Quand ma femme l'a repris, il l'a repris encore et il avait triplé de volume. Et puis, ça a aidé, disons, à continuer la thèse. Et c'était une aventure intéressante. Et je peux dire que je suis rentré jusque dans les entrailles du code. Depuis, ma femme a tellement pris goût à l'informatique qu'elle est co-auteure maintenant d'un livre pour aider les enseignants à apprendre l'informatique à l'école dans le cadre de la Fondation La Main à la Pâte, dont Jean-Charles, sans savoir que c'était ma femme, m'a dit le plus grand bien il y a quelques jours. Un, deux, trois codés, oui.
Une merveille absolue.
Merci, merci. Alors, je vais vous parler de ça. Donc, on va parler de probabilité, de sens et d'évolution, qui sont des mots qui reviennent dans ces méthodes. Et puis, on va faire une petite promenade à travers certains sujets, dont le point commun, c'est qu'il y a certaines questions de complexité, certaines questions algorithmiques, qui demandent de faire intervenir du hasard à un moment. Et puis, il y a de l'évolution, aussi bien dans le sens où on s'attaque à des questions évolutives, que dans le sens où on a des programmes qui évoluent. Commençons par une petite citation sur le lien entre biologie et mathématiques avec Darcy Thompson, 1917. Le mouvement brownien est le plus important des phénomènes fondamentaux par lesquels les biologistes ont contribué aux sciences physiques. On pourrait dire aux sciences mathématiques, puisque le mouvement brownien maintenant c'est aussi un sujet très important en mathématiques, mais quand on regarde ça, on se dit quand même c'est un peu décevant si on compare la situation, par exemple l'apport de la physique, peut-être que la physique a suscité à la louche un tiers de toutes les branches mathématiques qui existent aujourd'hui. Biologie, c'est beaucoup plus mince la liste. Si on cherche des branches mathématiques qui ont été suscitées par la biologie, on en trouve fort peu. Giancarlo Rota, un fameux mathématicien, disait dans les années 80, le manque de contact réel entre mathématiques et biologie est soit une tragédie, soit un scandale, soit un défi, et c'est dur de décider lequel des trois. Depuis, ça a évolué, mais quand même, on peut toujours dire qu'il y a très peu de concepts mathématiques qui ont été inspirés par la biologie. En revanche, beaucoup, beaucoup de recettes, et puis des sujets passionnants pour sûr. Alors, parmi les sujets passionnants biologie et mathématiques, deux que je vais mentionner. Alors d'abord, le livre le sujet de la reconstruction phylogénétique avec une des bibles dans le sujet par Joseph Felsenstein, médaille Darwin-Wallace 2008 pour des travaux mathématiques et pour des synthèses de travaux mathématiques sur la question de la reconstruction. Le livre est un petit chef-d'œuvre. Et puis, mentionner aussi que la thèse de Claude Shannon, après qu'il a travaillé sur les circuits électriques et liens avec la logique, il a fait une thèse en biologie en un temps record, dans laquelle il développait du calcul algébrique pour calculer efficacement les générations successives. À l'époque, c'était très en avance. Et après, alors que les biologistes voulaient qu'il continue dans le sujet, son patron lui a dit « Non, non, reviens, t'as encore plein de choses à faire. » sur le lien mathématique électrique, et quelques années plus tard, il a sorti la théorie de la communication. C'est l'occasion de faire de la publicité pour le colloque Shannon qu'on organise à l'Institut Poincaré fin octobre, 26, 27, 28, si je ne dis pas de bêtises, avec un programme remarquable sur l'état actuel de la théorie de l'information et les pistes futures qui se dessinent. Le sujet est toujours extrêmement vivant. Voilà donc des sujets passionnants à coup sûr, et puis difficultés graves qu'on rencontre en biologie dès qu'on veut y appliquer des méthodes de type mathématique. Les très nombreux facteurs, les échelles de temps parfois longues, la reproductibilité décevante, les définitions mouvantes, on a vu tous les problèmes, c'était hier je crois, sur la définition de l'espèce, les contaminations entre expérimentateurs et expériences, les enjeux financiers et idéologiques évidemment, qui sont sans commune mesure en biologie avec ce qu'on voit en mathématiques ou même en physique d'une certaine façon. Imprédictibilité, les statistiques contestables, les fraudes, comme le montrent certaines affaires extraordinaires qu'on a vues ces dernières années, les gens qui argumentent que la plupart de la recherche publiée en sciences et en particulier en biologie est faux, essentiellement pour mauvais usage de statistiques, et quelque chose qui est à la fois une grande difficulté et un grand défi, le fait qu'il y a des énormes jeux de données. Ils sont toujours parcellaires. Hein. Il y avait un exposé qui rappelait il n'y a pas longtemps que toute la diversité du vivant qu'on a maintenant, c'est une fraction infime de tout ce qui a existé. Et puis, cette combinaison qui tue, que le nombre d'observations n'est pas très grand par rapport à ce qui est en physique. Hein. Un gaz, ça peut être 10 puissance 20 particules, mais en biologie, vous n'avez jamais un échantillon de 10 puissance 20 bestiaux. En revanche, la dimension des possibles est énorme. En physique, votre particule est dans un espace à quelques dimensions. En revanche, votre protéine ou votre espèce, elle va se retrouver dans un espace à dimension énorme. Alors, on a donc une mauvaise combinaison entre le nombre d'observations et de dimensions. Et quand on dit très grande en biologie, c'est jamais aussi grand que ce qu'aiment les physiciens en termes de nombre d'observations. Mais les données peuvent être monstrueuses à cause de ce phénomène de dimension. Bon. Alors, problème classique, comme on sait bien. Comment trouver la sagesse à partir de la connaissance? Ça, c'est une interrogation classique. À l'heure scientifique actuelle, dans ce genre de sujet, les deux autres défis qui se rajoutent. Comment trouver la connaissance dans l'information? Comment trouver l'information dans les données? Aucune étape n'étant évidente. Henri Poincaré rappelait qu'une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres est une maison, et que le savant doit ordonner. Et donc, une théorie scientifique, ça ne peut pas être une collection de faits, un catalogue, il faut trouver les grands principes. En biologie, peu de grands principes, en tout cas vu de l'extérieur, quelques-uns, mais quand même quelque chose qui reste beaucoup plus axé sur des catalogues qu'en physique, et sans qu'on sache si c'est intrinsèque ou si c'est parce qu'on est trop bête. Et puis, la question sur le genre de sujet dont on va parler, c'est même plus avant, à partir des jeux de données, comment trouver l'information, même ça étant pouvant être un défi considérable. Alors, on va s'intéresser à celui-là, trouver l'information à partir des données. Problème de grandes données en grande dimension, on les trouve pas seulement en biologie, on les trouve en médecine, on les trouve dans l'industrie, et de temps en temps, il y a des mots-clés magiques et omniprésents qui arrivent et qui reviennent et qu'on trouve selon les époques, soit dans la communauté scientifique, soit carrément dans la presse scientifique pour tout public, soit carrément dans la presse tout public. Alors il y a peut-être deux décennies, le mot qu'on entendait partout, c'était MCMC, un peu comme une litanie. Aujourd'hui, le mot qu'on entend partout, encore bien plus, c'est machine learning ou apprentissage automatique en bon français. Et les adjectifs qui viennent avec dans les cours ou dans les journaux, les qualificatifs, c'est des choses comme most exciting subject, revolution, ouais, c'est beaucoup beaucoup étant en anglais bien sûr et venant d'Amérique, indispensable et ainsi de suite. Alors on vous explique que c'est indispensable pour tout. Et les techniques en elles-mêmes sont vieilles. Les premières Monte Carlo Markov chain, ça date des années 50, 1953, on en reparlera. L'apprentissage machine 1959 Samuel disent certains, et d'autres font remonter ça encore avant à Turing, et Berry me contredira si il a encore une si, peut-être qu'il dira que c'est encore plus tôt. L'une et l'autre technique sont multiformes, c'est-à-dire qu'elles viennent à chaque fois avec des centaines de variantes, Surtout l'apprentissage machine, vous avez une liste comme ça de variantes et de sous-variantes de quelques grandes classes d'algorithmes. Et on prend comme point commun qu'il s'améliore avec ça s'améliore avec la taille des données. Plus vous lui donnez de données à manger à ces algorithmes, et meilleur est la conclusion qu'elles en tirent. Et puis que le hasard est un acteur majeur, soit dans l'algorithme, soit dans la modélisation. Quand je dis dans l'algorithme, c'est que il va essayer quelque chose, puis il va sauter aléatoirement à une autre tentative, puis encore à une autre. Soit dans la modélisation, c'est-à-dire que on a une solution à trouver, on va tirer au hasard, en espérant être chanceux, et si ça va bien, on peut montrer qu'on a beaucoup de chance d'avoir quelque chose qui est sans doute pas trop faux. Bon. Et traduire ça en énoncé précis est tout un défi. On va rentrer un peu plus dans les détails. Petite bibliographie très sélective. Je ne sais pas pourquoi dans ce sujet tout est en noir et rouge. Alors, le très joli livre de Christian Robert sur la méthode de Monte Carlo par Sean de Markov, dans une série d'ouvrages de Robert sur l'analyse bayésienne. Le magnifique ouvrage de Russell et Norvig sur l'intelligence artificielle, approche moderne. Celui-ci, c'est un petit bijou. Il a 10 ans maintenant, mais... essentiellement, ça fait une synthèse sur le sujet depuis les tout débuts. Et puis là, je vous ai mis ces deux ouvrages qui sont plus synthèse, moins scientifiques. Un qui est une compilation d'interviews de spécialistes d'apprentissage machine dans différents secteurs. Et un qui fait une synthèse sur la question de l'intelligence artificielle et de possible émergence de super intelligence. L'ouvrage est agréable en ce qui ne tombe pas dans l'idéologie ou dans le discours religieux qui est souvent l'empreinte des futurologues parlant d'intelligence artificielle. Deux jolis articles de synthèse sur les MCMC par Alan Sokal, physicien théoricien, et par Percy Diaconis, qui est peut-être l'expert parmi les mathématiciens le plus respecté dans le sujet. Diaconis étant connu par ailleurs pour plein de choses, et en particulier sa carrière de magicien de niveau mondial, avant de revenir dans le circuit mathématique sur le tard pour devenir un mathématicien de niveau mondial. Et il a non seulement obtenu certains des résultats les plus importants sur l'analyse des chaînes de Monte Carlo ou Markov Chain, mais aussi certains des tours de cartes les plus célèbres des dernières décennies. Parlons des probabilités. Donc là-dedans, un point commun, c'est que les probabilités jouent un rôle majeur dans ces sujets. Et probabilité, c'est un sujet qui est délicat, casse-gueule, si on peut dire. D'ailleurs, il y avait encore, à la suite de l'exposé de Michel Cassé, il y avait cette question sur qu'est-ce qu'on appelle probabilité de ceci ou de cela. Le formalisme des probabilités est bien développé, on sait faire du calcul. Quant à savoir ce que ça veut dire, c'est pas clair. Russell et Norvig résume ça très bien en disant qu'il y a eu des débats sans fin sur la source et le statut des nombres, des calculs de probabilité, avec trois approches principales. L'approche fréquentiste qui dit que si on répète l'expérience plein de fois, eh ben 30% de chance, ça veut dire que dans 3 fois sur 10 en moyenne, on verra ce truc-là se produire. La vue objective qui dit que c'est qu'il y a une sorte de propension de l'objet à faire comme ceci dans 30% des cas. Propension, hein. Et la vue subjective qui dit c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas et subjectivement, on attribue 30% de chance à ce que ce soit ça qui se passe, mais ça n'a pas de réalité objective dans le modèle. Bon. Et il y a des débats sans fin entre les trois et souvent les conflits sur le sens, c'est justement une mésentente sur le fait qu'on parle de l'un ou de l'autre sujet. Ajoutons qu'en probabilité, vous avez des formules de moyenne qui marchent bien et tout ça, mais même les concepts simples comme la moyenne, c'est pas clair quel sens ils ont. Bon, c'est un classique de dire que c'est un peu bizarre de penser que les hommes ont en moyenne 1,99 mains ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais un autre truc plus mathématique qui m'a toujours posé problème et que j'ai jamais digéré, dans l'étude des processus, dans l'étude du hasard. Alors, c'est un théorème classique, ça s'appelle le théorème du marcheur ivre, que si vous déplacez au hasard sur un réseau régulier, plan, hein, comme la ville de New York, en supposant que toutes les rues et toutes les avenues soient à angle droit et que vous changez de manière aléatoire à chaque croisement, c'est un théorème classique que vous revenez avec 100% de probabilité au point de départ. Bon, un jour. Hein, c'est le problème du marcheur ivre qui rentre toujours chez soi, même si il est tellement bu qu'il est incapable de fixer une direction. Cependant, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que le temps moyen de retour est infini. Bon, alors là, le temps moyen de retour est infini, j'ai essayé, je connais la démonstration mathématique, je l'ai faite, je l'ai enseignée, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment qu'un temps moyen de retour est infini, alors qu'on revient toujours à 100% au point de départ, c'est quelque chose qui me dépasse. Bon. Probabilité, c'est pas intuitif. Vous connaissez tous ou presque, je pense, ce fameux Montreal Challenge où il y a un jeu télévisé avec trois portes et derrière la porte une chèvre, derrière deux des portes une chèvre, derrière une autre porte une voiture, etc. Et il s'agit de savoir si une information en plus vous donne un avantage si vous changez de position ou pas. Un débat qui a donné lieu à des problème qui a donné lieu à des débats sans fin et sur lesquels un très joli livre a même été écrit et sur lesquels même les probabilistes professionnels se plantaient. Un autre effet qui est moins connu, c'est l'effet Linda de Kahneman et Tversky. C'est de la, sont des biais cognitifs. Kahneman a eu le prix Nobel en économie pour sa théorie des prospects, incluant des questions psychologiques dans la vieille théorie de l'utilité de Bernoulli et tout ça. Et l'effet Linda, il vous montre que quand on pense aux probabilités dans un grand public, dans nos têtes, c'est pas du tout, ça obéit pas du tout aux règles habituelles mathématiques. Et le problème, dans sa version la plus simple, il est tout bête, vous avez une petite description d'une charmante jeune femme qui s'appelle Linda, qui est célibataire, franche, très brillante, blablabla, posée une maîtrise de philosophie. C'est dans les années 80 que ce test a été fait. Étudiante, on est très occupée à l'exonisme, blablabla, participe à une session Pinker. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être guichetière dans une banque ou bien guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe. Hein, vous avez la petite description, vivant quelqu'un d'instruit, assez brillant et tout ça. Et on vous donne les deux possibilités, et une majorité écrasante des personnes à qui l'expérience est faite choisissent l'option 2 comme étant la plus probable. Alors que ça viole l'axiome le plus élémentaire des probabilités, qui est la probabilité de A et B, est forcément plus petite que la probabilité de A tout seul, puisque il y a beaucoup plus de guichetiers que de guichetiers actifs dans le mouvement féministe. Citation de Stephen Jay Gould sur ce problème. Je sais bien que l'énoncé joint, c'est-à-dire l'énoncé avec les deux propositions, est le moins probable, mais il y a un petit homoncule dans ma tête qui continue de s'agiter en me criant « Elle ne peut pas être juste une guichetière ! Lis la description !» Bon. Donc, pas intuitif du tout, les probabilités. Alors, à cette longue liste de défauts, on va en ajouter une dernière, c'est que c'est inefficace. Et comme le dit Alan Sokal dans sa revue sur la méthode Monte Carlo, c'est une méthode extrêmement mauvaise. Il ne faut l'utiliser que quand toutes les autres méthodes sont pires. Petit commentaire extrait du livre, interview sur les algorithmes de machine learning. Ça, il vous remarque en passant que n'importe quel algorithme d'apprentissage machine a besoin de regarder les données des dizaines de fois, sinon des centaines. Donc, il y a une redondance extraordinaire dans ces algorithmes. L'information, vous la passez, vous la repassez, et repassez encore et encore et encore et encore. Et en probabilité, c'est toujours ça. Et il y a une raison de fond à la remarque de Sokal, c'est que vous n'avez jamais très bonne précision en probabilité à cause des théorèmes de fluctuation. Les fluctuations, elles sont comme la racine carrée du nombre d'expériences. Donc, votre précision, c'est jamais mieux que l'inverse de la racine carrée du coût de calcul que vous y avez mis. Bon. Mais inverse de racine carrée, ça, c'est une convergence extrêmement faible. Hein. Les analystes, ils savent faire depuis longtemps des méthodes qui convergent exponentiellement vite, voire parfois en double exponentiel. Inverse du racine carrée, c'est un truc extrêmement lent. Mais, pourtant, malgré tous ces défauts qui sembleraient disqualifiés, il y a plein de problèmes pour les compter attaquer, pour l'instant, seulement par la méthode probabiliste. Et pourtant, le raisonnement probabiliste est si utile, et plusieurs fois dans les décennies qui ont passé, ça a donné des révolutions technologiques. On va en voir. Alors, premier exemple, pour vous donner une idée, PageRank. PageRank, c'est l'algorithme originel de Google qui a contribué à faire sa fortune. C'est pas celui qu'ils utilisent maintenant, et de toute façon, les algorithmes de Google sont réécrits régulièrement, améliorés sans arrêt. Mais l'algorithme original, c'est une très jolie idée, qui est comme suit. Supposons que j'ai plein de pages web, Et je veux chercher le réseau, évidemment, avec une certaine information, et je veux savoir qu'est-ce que je vais chercher en priorité. Peut-être qu'il y a 1 milliard de pages web ou quelque chose comme ça, par laquelle on va commencer. Bon. Alors, les pages web, elles ont ce chose importante qu'elles se réfèrent les unes aux autres. Il y a un contenu qui vous plaît, vous mettez un lien, vous vous renvoyez, voilà. Donc, il y a une notion d'autorité. Voilà d'où je tire l'information. Alors, imaginez, comme pour mettre ça en situation, que ce soit un problème de trouver la page web, vous êtes un détective, vous enquêtez sur une affaire dont vous ne connaissez rien, il y a un certain nombre de témoins qui ont leur version à donner, et vous demandez, je vais commencer par lequel. Mais les témoins, vous voyez dans leur prédisposition qu'ils se citent les uns les autres. Et cette information-là, je le sais parce que c'est machin qui me l'a dit. C'est un peu comme les pages web. Alors regardez ça, imaginez que vous avez 8 témoins, 2 renvoient à 7 pour une certaine information, 7 renvoient à 3, 3 renvoient à 1, 2 renvoient à 1, etc. Bon, par qui vous allez commencer? Alors quand on voit ça, on se dit c'est assez simple, je vois qu'il y a des gens qui renvoient vers 1, mais 1 renvoie vers personne, donc a priori 1 a été l'un des témoins directs. Et puis je vois que c'est aussi le cas de numéro 4, il a été témoin direct, donc c'est normal de commencer par eux, et après de voir ce que les autres ont à dire. Toujours commencer par la source directe d'information. 4, il a cette particularité qu'en plus, il y a plus de gens qui se réfèrent à lui. Donc peut-être je vais commencer par lui. C'est le plus référé, c'est le plus connecté, c'est peut-être celui à qui on donne le plus de crédit. Sur cet exemple-là, c'est fossile. Maintenant, si vous avez ça, alors c'est quoi? Je vais commencer par qui? Et évidemment, vous avez, il faut penser qu'en fait, vous avez les millions pour chaque mot-clé ou combinaison de mots-clés, ça va être des millions d'arbres. Alors, la solution de PageRank, c'est de dire, je ne vais surtout pas essayer de faire des règles et tout ça, je vais laisser le hasard agir. Je vais simplement me balader sur le réseau et puis aller rendre visite aux témoins. Machin m'a dit, ah bah tiens, je vais voir celui-ci. Ah, il me dit, ah bah tiens, je vais voir celui-là, et ainsi de suite. Et puis comme ça, au cours de cette marche, il y a des gens que je vais rendre visite plusieurs, beaucoup de fois, parce qu'on me renverra souvent sur eux, mais c'est ceux-là, ceux que je visite le plus, à qui je vais accorder le plus grand crédit. Et ben, c'est ça qu'on va faire, sauf qu'on ne va pas le faire avec une petite bille, on va en envoyer plein à la fois, et on va les laisser se balader en suivant les liens de manière aléatoire, parce que des fois il y a plusieurs choix, si lui envoie soit sur lui, soit sur lui, soit sur lui, ben, je vais choisir un des quatre, et puis je vais y aller, au hasard. On va faire tourner ça un certain temps. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est que de temps en temps, on va... Allez, peut-être que des fois, je serai coincé. Alors, je vais sauter complètement, aller d'un bout, d'un coin à l'autre, de manière aléatoire. Alors, allons-y. Ici, on va envoyer des petites billes. Et on va voir, chaque fois qu'on visite un site, on va mettre un compteur. Hein, et on va voir où est-ce que les compteurs vont s'accumuler. Bon, au début, on voit pas vraiment ce qui se passe. Alors là, il y a des petits... Les petites billes qui visitent, elles se font balader de là en là. Ah, et là, et ça émerge. On voit qu'il y a 2 nœuds qui se font visiter beaucoup plus que les autres. Et on se dit que, bon, après, il y a peut-être celui-là, mais ce n'est pas du tout évident. Et on voit le hasard qui vous laisse émerger la solution. Donc là, vous avez sur cet exemple l'idée que vous allez réussir avec le hasard à avoir une très bonne idée de ce vers quoi il faut se tourner en premier. Et si vous aviez essayé de le faire de manière déterministe, ça vous aurait donné une explosion combinatoire, un nombre de cas envisagés tel que ça aurait été bien plus long en fait. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base de PageRank. L'animation a été faite par Joss Lace, l'un des meilleurs animateurs de mathématiques du moment. Alors, voici un exemple, un deuxième exemple, mince. Extrait du papier de Diaconis. Et un jour, à Stanford, hein, ils ont un guichet à Stanford où les gens peuvent venir leur poser des problèmes. Voilà. Et un jour, ils ont reçu ça. C'est des surveillants d'une prison qui avaient intercepté des messages secrets que s'échangeaient les prisonniers et ils voulaient savoir ce qu'il y avait dedans. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Bon, on a lu Edgar Poe, hein, on sait qu'on commence par regarder les fréquences, en devinant le langage, qu'est-ce que peut être le « e ». C'est peut-être pas. Puis on peut se demander sur les mots, puis peut-être des combinaisons de lettres. On peut se dire peut-être que, par exemple, EL, ça arrive plus souvent que ZE, des choses comme ça. Bon, n'empêche que c'est un peu compliqué. Et ils ont résolu ça en essayant au hasard, pas toutes les combinaisons, mais seulement certaines combinaisons. Et ça, c'est le principe Markov Chain. De la même façon que. Tout à l'heure, là, je suis parti de certaines positions initiales qui n'étaient pas forcément les bonnes. mais après le flot m'a entraîné vers des choses qui étaient plus probables, je vais partir d'une condition initiale qui ne sera pas la bonne, et puis je vais essayer de changer, faire une hypothèse, peut-être c'est plutôt comme ci, peut-être comme ça, jusqu'à arriver à quelque chose qui est convaincant. Et effectivement, ils ont décodé ça sans coup férir. Alors regardez, c'est du langage qui n'est pas du tout bien léché, c'est un mélange d'espagnol et d'anglais, c'est pas... La grammaire est pas bien léchée et tout ça, donc ça aurait peut-être été fort délicat à aborder par une méthode classique. Dans le même genre d'idée, Diaconis nous montre cet exemple où il s'agit de reconstituer un texte qui est un extrait d'une œuvre littéraire qui a été mélangée n'importe comment, vous voyez là au début à quoi ça ressemble, et on va explorer en faisant des échanges, hein. Allez, bon, ça marche pas, mais essayons d'échanger telle et telle lettre. C'est juste, on a permuté les trucs. Et puis, on sait quelles sont les fréquences des différentes combinaisons de lettres en anglais. Genre, comme je disais, c'est plus fréquent d'avoir A et H peut-être que A et Z, quelque chose comme ça. Et petit à petit, on va essayer d'aller de plus en plus probable en plus en plus probable avec cette règle. Si l'échange donne quelque chose de mieux, quelque chose qui sonne mieux, on le garde, sinon on le rejette. Je caricature un tout petit peu. Au bout de 500 itérations, vous êtes toujours arrivé nulle part. Mais au bout de 1600 itérations, vous commencez à voir quelque chose se dessiner. Et au bout de 2000 itérations, vous avez reconstitué l'extrait de Hamlet, qui était l'original. Et là encore, si vous aviez essayé de passer par toutes les combinaisons, toutes les permutations de lettres, vous n'étiez pas rendu. Hein. C'est un nombre simplement inimaginable. Ça, c'est pas du tout intuitif, là, aussi, ce truc. Quand on regarde le résultat, là, on se dit comment ça marche. Alors, sans doute, ils ont eu un peu de chance aussi, parce qu'il y a des choses... Là, par exemple, le Ham, c'est celui qui, dans la pièce de théâtre, indique que c'est Hamlet qui parle. Il n'a pas de raison syntaxique d'être là. Donc, ils ont eu un petit peu de chance. Mais il en faut aussi. Et au pire, ils auraient pu faire un petit massage à la main sur le résultat qui était presque bon. Bon. Troisième exemple... Reconstitution de préférence, extrait de l'exposé au dernier congrès international des mathématiciens d'Emmanuel Candès, l'un des meilleurs experts d'une branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle la parcimonie, très axée calcul des variations. Et Emmanuel Candès était conférencier plénier au dernier congrès international, et c'était la première fois que dans le congrès international, il y avait un orateur, un conférencier plénier qui était spécialiste d'intelligence artificielle. Et il nous parle de ce problème célèbre, problème de Netflix, qu'on appelle problème de filtrage collaboratif. Vous avez des utilisateurs, ils sont ici les utilisateurs, bon, il a mis Poincaré, Ramanujan, Hilbert, et puis la présidente de l'Union mathématique internationale de l'époque, pour le fun, et ici des films, et... Il y en a qui ont vu les films, par exemple Poincaré, il a super bien aimé Le Parrain, il a mis 5 étoiles. En revanche, il n'a pas vu ce film, il n'a pas vu celui-là, il n'a pas vu Beautiful Mind. Et sachant comme ça, les tables de préférence partielles, on se demande quelles sont les notes que mettraient les uns les autres, de manière à pouvoir suggérer aux gens, vous avez aimé tel et tel truc, regardez donc tel film, ça va vous plaire. Bon. Alors, comment on trouvait ça? Ici, on le voit avec une matrice genre 5-5. En vrai, c'est des centaines de millions que doit gérer Netflix. Bon, c'est une matrice aussi, ouais. Matrix, ça doit être encore plus. Une matrice encore plus grande. Alors, ils avaient mis ça à concours. Il y a plus de 100 algorithmes qui ont été proposés et inventés pour faire ce genre de choses. Et souvent aussi, on combine les algorithmes de sorte que par combinaison, vous en avez encore plus. Mais regardons la méthode que nous présentait Candès, par exemple. Donc cette méthode parcimonie, il nous disait par exemple, voici, provenant d'une situation réelle de choix, une matrice de préférence avec des notes de 1 à 6, réellement observée sur le terrain et seulement certaines préférences, j'applique l'algorithme et il est arrivé, et voilà ce que ça donne, et il s'est trouvé que ça a reconstitué exactement la vraie matrice de préférence observée sur le terrain. Alors, c'était un coup de chance, parce qu'il est toujours possible que tel utilisateur ait aimé machin et détesté le film qui ressemble à machin, comme ça, on ne sait jamais, il y a plein de paramètres. Mais avec forte probabilité, on peut montrer que vous pouvez tomber juste, et le postulat fondamental qui est derrière, c'est que même s'il y a 100 millions de films et 100 millions d'utilisateurs, il n'y a qu'un petit nombre de types de films et de types d'utilisateurs. de sorte que les données sous-jacentes, on va pouvoir les arranger dans une espèce de géométrie qui dépend finalement d'assez peu de paramètres. Peut-être les signes d'action, le signe de ceci et de cela. Peut-être 10, peut-être 100 paramètres, mais pas 100 millions. Alors, ça c'est le problème de Netflix. Ici, c'est pas que l'algorithme soit aléatoire, mais que vous avez besoin de chance pour que ça tombe juste. Et dans votre modèle, il vous faut mettre des probabilités aussi. Ingrédients pour le succès, c'est toujours dans l'exposé de Candès. Ça, c'est l'opérateur, disons, qui, à partir des données, vous donne le résultat, genre la préférence. Et premier ingrédient, il faut que les solutions soient structurées, c'est ce que je disais, qui est finalement qu'un petit nombre de paramètres explicatifs qui sont cachés, mais qui existent. Deuxième ingrédient, c'est que vous puissiez, dans son cas, retrouver une solution aussi proche que possible de la vraie vie à travers un problème de minimisation que vous arrivez à résoudre, en l'occurrence la programmation convexe. Troisième ingrédient important, l'incohérence, qu'il n'y a pas eu de pattern particulier dans la sélection qui a été faite. Vous avez des données incomplètes, mais ce n'est pas genre tous les films d'action qui ont été éliminés. Ce qui vous arrive, c'est un truc qui a été mélangé et qui passe par tous les types d'utilisateurs et un peu tous les types de films aussi. Quelque chose qui mélange bien. Ça, c'est les trois ingrédients pour le succès dans les méthodes que présentait Candès. Et le 1 et le 3 sont importants dans à peu près toutes ces méthodes d'intelligence artificielle. Le 2, ça dépend.
C'est des méthodes de réseau de neurones.
Lui, c'est pas fait par neurones, on va le voir. Lui, c'est encore c'est du vrai calcul des variations avec des. Alors, comme dans les réseaux de neurones, après il y a des algorithmes de descente de gradient pour trouver les nœuds et tout ça. Mais voici l'algorithme, il l'a appliqué à un autre problème. Imaginez que vos données incomplètes, c'est pas des matrices de films à la noix, c'est une image médicale et vous avez une. Alors ici, on reprend super bien, mais en tout cas, ça c'est la vraie image. C'est les organes, quoi. Quand vous passez dans le scanner, la machine fait votre tronçon et de Fourier. Tronçon et de Fourier fait une moyenne sur toutes les directions. Moyenne, ça mélange bien. Donc la tronçon et de Fourier, elle va passer, si vous voulez, à travers tous les organes, à chaque fois, dans chaque direction. Vos données, elles sont très structurées. Vous ne pensez pas à une image comme à une suite de pixels. Vous y pensez comme, ben, là, il y a le foie, c'est un gros rond. Là, il y a le machin, et je peux donner une description de l'image en termes assez simples. Mais quand vous appliquez la transformée de Fourier, ça va passer à travers toutes ces descriptions. Alors maintenant, vous jetez l'essentiel de la transformée de Fourier, c'est spectaculaire, vous jetez 95% de la transformée de Fourier, et si vous le reconstituez bêtement avec les formules d'habitude, vous obtenez une image dégueulasse, excusez-moi, et si vous le reconstituez bien, vous obtenez quelque chose qui est en gros indistinguable de ce qu'il y avait au départ, si vous le reconstituez de manière maligne. Reconstruction de manière maligne, c'est parier qu'il y a peu de paramètres. Ça dépend d'un opérateur de rang assez bas, et genre parmi toutes les possibilités, ben, minimiser. Alors, un truc qui indique qu'il y a peu de paramètres, ça va être une norme. Les analystes, ils ont des milliers de normes en stock. En l'occurrence, c'est genre une somme de normes du gradient de la fonction soumis aux contraintes qui sont données par les données qu'on connaît. Et ce bête algorithme, alors après, ça ramène le problème avec le calcul de cet optimiseur, ce bête algorithme donne des résultats remarquables. Alors, il continuait, Candès, en nous montrant comment ça, il avait collaboré avec des médecins dans des cliniques pour mettre ça en pratique sur des systèmes d'IRM, et avec des résultats assez remarquables, puisque ça permettait en pratique de diviser le temps par 8, le temps dans lequel vous devez rester dans le scanner. Ce qui n'est pas négligeable quand vous avez affaire à des petits enfants, à des petits gamins, et vous ne voulez pas qu'ils restent trop longtemps dans cette machine. Bon. Et les mathématiciens, il faut dire, étaient très fiers de voir ça. Ils disaient, ah ben voilà, ouah, la mathématique, ça sauve des vies, finalement. Alors, autre exemple, correspondance entre génotype et phénotype. Évidemment, c'est un grand bazar, comme on sait. Vous avez plein de parties du génome qui vont se combiner pour faire un trait, ou au contraire, plein de traits qui peuvent dépendre d'une seule partie du génome, qui sait quoi. Et il y a une approche qui dit, on va surtout pas chercher à comprendre exactement comment ça se fait. On va donner à la machine des tas et des tas d'exemples de coupes génotype-phénotype, pour qu'elle puisse ensuite deviner, à partir du génotype, quel est le phénotype, sur un certain nombre de traits. La machine va parier que ça dépend qu'il n'y a qu'un certain nombre de paramètres pas si grands qui permettent de faire la reconstruction. À la machine de trouver, et nous on se fiche un peu. Donc ici, c'était aux dernières conférences TED, Riccardo Sabatini, qui nous pose pour je ne sais plus quelle grande entreprise spécialisée là-dedans, qui nous montrait la reconstitution de visage à partir de phénotypes. Il l'avait appliqué à lui-même, ça c'est ce que donne l'algorithme, ça c'est son vrai visage. Évidemment, il y a certains caractères qui restent de ressort du libre arbitre, tels que le fait de porter une barbe ou pas. Et puis il y a aussi plein de choses, mais les résultats étaient assez impressionnants. Alors après, il y a débat sur ce genre de méthode et des débats en cours pour savoir si ça peut être utilisé dans les reconstitutions criminelles ou si c'est trop entaché d'erreurs ou qui sait quoi, avec l'idée quand même consensuelle qu'il ne faut jamais se contenter seulement de ça et que ça doit forcément, comme d'ailleurs les tests ADN, relever aussi, être accompagné aussi d'une enquête sur le terrain. Alors pour la petite histoire, vous voyez, ça c'est Riccardo, il avait amené toute une bibliothèque avec lui là, un mur avec toute une bibliothèque. En fait, c'était des bouquins. L'ensemble de tous les bouquins représentait un génome complet d'humain. Et c'était assez frappant de voir que la bibliothèque entière, c'était le code d'un humain. Ça, la démonstration la plus frappante que j'ai jamais vue pour expliquer ce que c'est Big Data. Parce que vous pouvez toujours mettre un 10 avec un grand exposant, ça ne sera jamais aussi frappant que si vous voyez le truc en vrai. Alors, parlons maintenant un petit peu de phylogénie. Et je vous parlais de ce bouquin de Fesselchain et tout ce problème d'affaire à la phylogénie. Comme pour les autres trucs, c'est pareil. Plein de possibilités et l'idée qu'on va utiliser le hasard et laisser la machine choisir. Alors, phylogénie. C'est hommage à Haeckel, dont il avait été, que tu avais mentionné hier. Voilà, ça c'est l'arbre du vivant de Haeckel avec les plantes, les protistes et les animaux. Et ça, c'est le genre de figure que vous voyez sur le Tree of Life, projet avec les champignons, les protistes, les plantes, les animaux, les bactéries, les archées. Et là-dedans, on va se concentrer sur un petit problème, mais assez fondamental, c'est les liens entre les trois grandes catégories d'êtres vivants. Je parle sous le contrôle des biologistes de la salle, les eucaryotes, les bactéries et les archées. Il y avait un exposé, là, il y a quelques jours, cette semaine, sur les virus dans les archées. Je ne sais plus qui c'est qui le faisait. D'accord. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Et qui nous montrait plein de virus extraordinaires qu'on voyait dans les archées. Alors, vous voyez ce genre de truc quand vous regardez les arbres sur les archées, des représentations dans lesquelles il y a les eucaryotes, les archées, les bactéries, ça forme trois branches d'un arbre, un arbre à trois branches, ou d'autres qui, comme ça, vont vous mettre les eucaryotes avec les archées, soit un peu comme ça, soit franchement avec, avec l'idée que peut-être les eucaryotes et les archées sont ensemble, même s'il y a eu des contaminations entre les uns et les autres, sans doute des transferts. Question, est-ce que c'est plutôt comme ça, ou est-ce que c'est plutôt comme ça? Est-ce que nous, eucaryotes, sommes plus proches des archées que des bactéries, sensiblement? Bon, comment vous abordez cette question quand vous êtes un biologiste en 2016? Alors, c'est justement le problème qui était abordé dans un article de 2011, Royal Society, qui vous explique que la phylogénie archéale donne des preuves ou des indices forts que, blabla, une origine méthanogénique des archées, origine tout archéale des eucaryotes, et en tout cas que les archées et les eucaryotes sont des groupes, en un certain sens, frères, et que c'est bien plus probable, d'après l'article, que l'hypothèse à trois branches. C'est pas les seuls, si j'ai bien compris, c'est pas les seuls à dire ça. Ils sont beaucoup à penser que c'est le plus probable, même s'il y en a d'autres qui sont plutôt d'une opinion dissidente. Alors, c'est une variété d'archées dont je ne sais rien, sauf que tu as 36 sortes différentes d'archées. Il y en a qui sont les tomarchéales, les machins, et tu as des catalogues et des tas de variétés. Il y a quelqu'un qui saura répondre, mais moi j'en sais rien, mais on va le prendre juste une catégorie d'archées. Alors ce qui nous intéresse dans ce résumé, dans cet abstract, c'est que là, il y a le mot-clé Machine Learning Approach. Donc c'est basé sur une méthode d'apprentissage machine, en fait dans le sens d'une Monte Carlo Markov Chain, et ici on voit Using Bayesian and Maximum Likelihood Approaches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un article de biologie qui indique ça? Vous partez du génome, ça c'est la première idée. Je vais caricaturer la démarche, mais expliquer. Vous avez un séquençage, je vous dis toute l'information la plus pertinente à la fin est dans le génome, alors je vais commencer par séquencer bestialement paf, ici j'ai mis espèce, mais bon, taxon, je ne vais pas rentrer dans la sémantique justement. Et alors, vous avez quoi? Vous avez une série de ACTGGG, vous imaginez que vous avez comme ça vos 48 séquences de longueur monstrueuse. Vous n'allez pas les comparer directement, non, vous commencez par essayer de trouver des sous-séquences que vous pouvez faire correspondre. Genre qui code une protéine qui ressemble. Bon. Alors, ils ont recherché, ils sont partis de 104 759 séquences, genre protéines, possibles, et ils ont fait la recherche partout. Est-ce qu'on la trouve là? Est-ce qu'on la trouve là? Est-ce qu'on trouve des matchings et des correspondances suffisantes pour dire ça, ce bout-là d'ADN correspond à ce bout-là? Il y a eu des mutations entre-temps, mais je peux les correspondre. De la même façon qu'on peut faire correspondre notre main à l'aide de la chauve-souris et se dire qu'il y a eu un certain nombre de transformations qui ont mené de l'un à l'autre. Ils ont trouvé 3537 séquences qu'on pouvait comparer pour chaque espèce en moyenne 430 séquences. Donc si vous prenez genre deux espèces, là-dedans, il y a des centaines de morceaux de l'ADN qui vont se ressembler suffisamment pour qu'on se dise que ben, ça se correspond. Vous avez des dizaines de milliers d'alignements et vous vous retrouvez avec un problème d'informatique bestial, un problème de combinatoire bestial. Alors pour chaque cas, vous pouvez calculer la vraisemblance, genre la généalogie, je ne la connais pas, mais supposons qu'elle soit comme ça, mais quand même, ça serait bizarre qu'avec un arbre comme ça, j'observe ce résultat, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu énormément de mutations en peu de temps sur cette branche. Peut-être que cet arbre n'est pas très probable. Et il y a des formules mathématiques qui vous permettent de calculer ça. Et à la fin des fins, vous voulez choisir l'arbre qui est le plus économe. Rasoir d'Occam, critère de parcimonie, l'arbre le plus simple, je vais penser que c'est le vrai. Alors il y a toutes sortes de notions de distance sur les arbres, c'est un sujet en soi qui est passionnant, de ressemblance. Pour la démarche, c'est une façon juste très compliquée de faire ce qui est dans un épisode de Game of Thrones, quand le maistrey, constatant que dans la lignée machin, il n'y a eu que des bruns, sauf tel qui est blond, décide que l'hypothèse la plus probable, c'est que le père n'est pas celui qui est officiel, mais que le père est un autre gars qui est blond, et justement, il y avait un soupçon. Un arbre qui implique peu de mutations, sur le plus de traits, vous allez le considérer comme plus probable. Bon, eh ben c'est bien. On va regarder tous les arbres et choisir le plus probable. Alors, c'est un problème combinatoire classique. Combien d'arbres sont possibles? Il y a des factoriels derrière, et quand vous l'appliquez à votre problème avec 48, vous trouvez qu'il y a environ 1874 arbres. Alors j'ai essayé de faire le calcul hier, mais si je crois qu'en prenant l'ordinateur le plus puissant du monde, vous arrivez à les envisager tous, sous des hypothèses très optimistes, en 10 puissance 30 milliards d'années, quelque chose comme ça. Bon. Donc c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution, l'approche exhaustive. Jusqu'ici, on l'a fait bestialement, mais là, il va falloir être malin, et il va falloir avoir de la chance. Bon. Alors, il va falloir faire confiance au hasard ou à la chance, ben, tomber sur le bon. Comment tomber sur le bon? Bien embêté. C'est ici qu'arrive le hasard. Alors c'est ici que ça devient sympa quand vous lisez l'article Ingérence génétique, et c'est assez typique de ce qu'il y a dans cette littérature. Bon, détection, non-détection à partir des 3537, ça c'est discrete, ortho... mince, je ne sais plus... Pardon? Orthologue. Groupe, voilà, en tout cas les machins qu'on compare les uns aux autres. Et puis, voilà, c'est ici... En utilisant le programme MrBase version 3.1.2. Et évidemment, les résultats de l'article vont dépendre du programme MrBase version 3.1.2. Bon, qui n'a jamais été prouvé, soit dit en passant, et ça se trouve, il y a un bug et tout ça. Bon. Alors, des hypothèses de modèles, des gammes de distribution, des paramétrisations, etc. Chaque inférence a été faite d'un arbre aléatoire de départ, et on l'a laissé tourner pendant 300 000 générations. C'est des générations fictives, hein, vous faites sur l'ordinateur. Le temps qu'on a obtenu pour obtenir l'équilibre, c'est entre 7000 et 15000 générations par réplique. Les derniers 200 000 arbres échantillonnés, chaque 500 générations de chacune des 1000 répliques, ont été utilisés pour construire l'arbre bayésien, les bootstrapés auto-confirmés, peut-être consensuel. C'est sympa, hein, la biologie. Alors, le truc, là, la dernière phrase que vous voyez, là, le temps que ça a fallu, etc. On a fait un échantillonnage chaque 500 générations. Il ressemble furieusement à un extrait du cours de Sokal qui dit « Beaucoup d'articles, d'études sur Monte Carlo contiennent des énoncés comme « On a lancé pour un total de 100 000 itérations, on a mis de côté les 50 000 premières pour arriver au régime d'équilibre, et puis on a pris des mesures chaque 100 itérations. » Et comme le dit Sokal, sauf si on donne d'informations supplémentaires comme le temps d'autocorrélation de l'algorithme, ces énoncés n'ont pas la moindre valeur. Bon, alors là, vous revenez l'article, vous dites où est le temps d'autocorrélation, vous voyez qu'il est nulle part, vous dites, bon, très bien, on est sur des bases solides. Alors, il sait tout.
On fait confiance.
On fait confiance, mais le logiciel sait tout, voilà, bien sûr. Mister Bates, voilà, les informaticiens travaillent pour nous. Mister Bates, c'est Mister Bates. Reverend Bates, ouais, très bien, Rev Bates.
Un Mister Bates coûte un montant tel qu'il devrait être sérieux.
Ah, je connais pas les chiffres là, c'est que.
Vas-y, continue, Pascal.
Alors, voilà, je vais. Trouver le meilleur arbre, pas possible. Et puis, le meilleur arbre n'est pas forcément significatif. Si vous en avez un qui est le meilleur, mais qu'il est juste un mini poil plus fiable que l'autre là, est-ce que vous allez publier le meilleur arbre? Ça n'a aucun sens. Ce que vous voulez, c'est une conclusion qui vous dise, genre, pour 99% des arbres en proba, j'obtiens telle conclusion, que les deux branches sont plus proches. Ça, c'est plus significatif. Mais le meilleur arbre en soi, c'est pas le truc qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est l'architecture générale, par exemple. Bon, vous cherchez des conclusions robustes. Alors, comment trouver les meilleurs arbres? Comment tirer des arbres probables? Bon, mais c'est ça le truc. Je veux un système qui me donne un arbre qui, au bout du temps, me donne une collection d'arbres qui seront parmi les plus probables. Comme tout à l'heure, dans ma simulation PageRank, on allait le plus souvent sur des nœuds qui étaient parmi les meilleurs. Donc je voudrais changer, aller d'arbre en arbre, dans la géométrie de tous ces arbres, avec des topologies qui changent et tout ça, et que les arbres que je visite les plus souvent soient des arbres assez probables. Bon, bon programme, mais comment faire ça? Alors, c'est ici qu'arrive le révérend Bayes. Et au début, Bayes, c'est un problème très général. Vous soupçonnez qu'il y a une certaine répartition de probabilité sur un certain paramètre inconnu, puis vous faites une observation qui dépend du paramètre, et vous dites, compte tenu de cette observation, comment je dois mettre à jour ma connaissance subjective du paramètre? C'est le problème de Laplace. Au départ, peut-être que le jour a une chance sur deux de se lever, mais sachant que le soleil s'est levé chaque jour depuis au moins 1000 ans, il faut que je mette à jour mon modèle. C'est plus un demi qu'il faut que je prenne, mais un moins quelque chose, enfin 99,999% quelque chose. La formule la voici, adaptée au contexte. Alors, au départ, vous avez une certaine probabilité sur les arbres. Vous dites, celui-là est plus probable que celui-là. Et puis, pour chaque arbre, vous arrivez à calculer la probabilité de voir les observations. Parce que le long des arbres, il y a des mutations qui peuvent se faire. C'est le problème classique. Si Anne et Gérard se marient et qu'ils ont des enfants, s'ils ont tous les deux les yeux bleus, ou si l'un a deux allèles bleus et l'autre un bleu, un marron, quelle est la probabilité que les enfants soient l'un qui a les yeux bleus, l'autre qui a les yeux marrons? Et donc vous calculez comme ça les probabilités de voir les observations. Sauf que ce n'est pas des yeux bleus, c'est toutes sortes de mutations dans votre séquence. Et voici la formule, la probabilité de l'arbre, en tenant compte des observations, c'est cette probabilité que l'arbre donne naissance aux observations, divisée par la probabilité de l'arbre, sur la somme, sur tous les arbres, de ces probabilités-là. Ah, super, j'ai ma formule. Sauf que, expliquez-moi comment vous faites pour calculer la somme sur les 10 puissance 74 arbres. Donc, la formule est là, mais en pratique, on ne sait pas la programmer. Alors, toute l'astuce de la Monte Carlo Markov Chain, c'est qu'elle vous permet de simuler, quand tout va bien, un arbre qui suivra cette distribution de probabilités-là, sans jamais faire ce calcul. C'est super malin. Parce que tout ce que vous ferez, ce n'est pas des calculs de probabilité d'arbre, mais des quotients de probabilité. Et quand vous faites le quotient, le gros dénominateur, là, il va disparaître. Alors, comment ça fonctionne? C'est l'algorithme de Metropolis. Alors, on va seulement parler de Metropolis, mais après, quand vous l'appliquez là, il faut le combiner avec un modèle d'arbre aléatoire. C'est la théorie du coalescent de Kingman et tout ce qui va avec. On va mettre ça sous le tapis. Algorithme de Metropolis, 1953. Au départ, Stan Ulam est à l'origine de l'idée. Et puis l'article qui fait référence, c'est l'article de Metropolis des Rosenbluth et des Teller. Et ça a été régulièrement voté comme l'un des 10 algorithmes les plus importants du XXe siècle pour tout ce qu'il a permis. Partez d'une configuration initiale qui a une certaine vraisemblance Disons, vraisemblance, c'est un truc qui est proportionnel à la probabilité, et je vais l'appeler P comme probabilité. Vous ne cherchez pas à le calculer, mais c'est un certain truc. Et puis vous passez de la configuration n à la configuration n plus 1 et vous continuez comme ça. Donc, c'est un processus stochastique. Le résultat, c'est une histoire. Premier arbre, deuxième, troisième, etc. À chaque fois, vous comparez la probabilité du nouvel arbre avec la probabilité du précédent. Donc, c'est comme si vous faites le quotient et vous regardez si le quotient est plus grand que 1. Ça veut dire que je me suis amélioré, j'ai trouvé un truc qui est plus probable, plus parcimonieux par exemple. Si effectivement c'est meilleur, j'accepte le changement. C'est normal, je vais chercher un truc qui soit aussi probable que possible. Ben, si la proposition permet de monter, je vais accepter. Maintenant, si c'est trop petit, je vais quand même me donner une chance de l'accepter. Mais la probabilité sera d'autant plus petite que le rapport est petit. C'est quoi l'idée? Supposez que vous vouliez arriver au point le plus haut du globe, si vous contentez de monter sans arrêt, vous allez vous trouver au fond d'une colline et vous ne monterez plus jamais. Si vous autorisez de temps en temps à descendre, vous finirez par arriver un jour au sommet de l'Everest. Donc ça, c'est l'idée. Et ce qui est remarquable, c'est que si vous le faites exactement comme ça, avec ce choix probabiliste, eh bien, si la distribution finit par se stabiliser, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le processus aléatoire, vous n'arrivez plus à distinguer quel est le temps où vous êtes, c'est forcément autour de P. Le truc que vous tirerez, il aura pour distribution P.
C'est démontré, c'est un théorème ?
Ça, c'est un théorème. Ça, c'est un théorème. Et montrer qu'il y a un théorème fondamental de Chen de Markov aussi qui donne des principes selon lesquels la distribution va se stabiliser. En revanche, le problème qui est vrai, et j'en dirai quelques mots, même si là je suis en train de dépasser mon temps, le vrai problème c'est quand.
Et ça c'est.
Voilà, ça c'est. Et ça c'est un. C'est l'un des deux écueils majeurs. Premier écueil majeur, combien de temps il faut attendre avant que ce soit stabilisé? Deuxième écueil majeur, quand vous sortez votre arbre comme ça, il y a une autocorrélation qui fausse les moyennes empiriques. Je vous explique le truc. Quand vous faites une moyenne, mettons, sur tout votre arbre, ben vous voulez faire une moyenne à travers tout l'espace des trucs importants. L'espace des trucs importants, il est ce qu'il est. Ma chaîne de Markov, elle ne saute pas instantanément d'un état à l'autre. Elle va progressivement. Donc si je fais une moyenne sur, mettons, 10 itérations consécutives, ça sera assez proche d'une certaine valeur. Et je n'aurai pas eu le temps d'explorer tout l'espace. Et donc ma moyenne, elle va fluctuer, ma moyenne glissante, elle va fluctuer plus qu'elle ne devrait, la variance est trop importante, et c'est pour ça que quand vous appliquez ça, vous faites toujours du sous-échantillonnage, ça veut dire vous gardez une observation sur une génération sur 500, disons. Super sous-optimal, vous jetez plus de 99% de tout ce que vous calculez. Bon, on n'a pas trouvé mieux, comme on disait. Dans un espace inconnu, c'est-à-dire sauf à connaître très bien la géométrie, la répartition de l'espace, etc., vous ne pouvez jamais être certain de la convergence de la MCMC. Tout ce qui vous reste, c'est des critères pratiques, heuristiques, de nombreux exemples, et de l'expérience et tout ça.
Ce qu'on retrouve
dans recu-simulé, c'est une forme de MCMC dans laquelle on fait varier le paramètre de stochasticité absolument. Et il y a plein de beaux théorèmes sur le recu-simulé quand on connaît, quand on a des hypothèses sur le potentiel, etc., mais si on est dans une géométrie inconnue, on n'est jamais sûr. Voilà. Donc c'est tout ça qui est derrière l'article. Et vous voyez qu'il y a une quantité de supposés, de machins qui sont mis dans la machine, que, si je puis dire, qui est assez considérable. Alors, je vais aller extrêmement vite pour vous dire que c'est utilisé aussi pour reconstruire. Par exemple, un exemple que j'aime bien et que j'utilise des fois, c'est la reconstruction de la phylogénie des araignées. Et cette fois, les nombres ils sont encore plus costauds. Le groupe qui s'occupait de faire ça a argumenté que pour 500 taxas, du coup, avec travaillé, c'est 10 puissance 1275 arbres possibles. Voilà, autant dire à l'infini. C'est aussi les problèmes de clustering. C'était il y a très récemment, là, un groupe qui expliquait que finalement, il y a 4 espèces de girafes et pas une en Afrique. Et il y a un débat, alors tout de suite il y a des gens qui ont dit non, c'est pas acceptable parce que il faut aussi des caractéristiques morphologiques différentes, qui sait quoi, et puis ils ont répliqué. Quand vous regardez ce qu'il y a derrière, vous trouvez encore les mots-clés, coalescence base, multilocus, population génétique, etc. C'est pas une effectivité classe, et quand vous regardez les outils utilisés, vous trouvez le BIST, Bayesian MCMC Inference Package, with Driven of Coalescent Models, etc. Bon, donc le débat sur combien d'espèces de girafes il y a, utilise l'algorithme, alors cette fois c'est pas Mr. Bayes, c'est Beast, mais derrière il y a l'algorithme de Metropolis et tout ça et tout ça. Difficile pour les débats. Autre exemple, reconnaissance. Alors, pour le coup, réseau de neurones est l'une des méthodes utilisées pour faire ça. Problème, comment entraîner une machine pour qu'elle puisse reconnaître automatiquement que ça c'est deux, même si c'est écrit avec une écriture dégueulasse, et ainsi de suite. Plein de méthodes utilisées, ça c'est un graphique extrait du livre de Nordvik et Russell. Et selon la méthode, vous voyez que vous avez des taux d'erreur qui, avec un certain entraînement, peuvent être très faibles. Donc là, c'est encore lié au hasard. On va donner à la machine un très grand nombre d'exemples. Et puis on va lui dire, débrouille-toi pour trouver la structure sous-jacente, avec plein d'essais et d'erreurs s'il le faut, en revenant par les données, et pour trouver toi-même quels sont les points qui doivent être considérés comme 1, ceux qui doivent être considérés comme 2, et ainsi de suite. Pilotage robotique. Projet développé à INRIA, qui était l'un des prix vainqueurs du jury de thèse de monde. Alors, l'idée, c'est qu'on entraîne quelqu'un, par exemple, à piloter, ça peut être piloté par le regard ou piloté par la pensée, un robot, avec, là encore, plein de capteurs. L'état du cerveau, il est ce qu'il est, ça dépend de plein de paramètres, mais quand vous pensez très fort à ceci, ça va être associé à une certaine action, très fort à cela, ça va être associé à une autre action. L'état de votre cerveau va être différent et vous n'avez aucune idée de quoi il est différent, mais la machine va apprendre à reconnaître parmi les tas et tas de paramètres lesquels correspondent à ceci et cela. Alors, je termine juste mes exemples. Création d'avatar, je l'ai vu chez Microsoft Research Asie la semaine dernière, et il est sympa. Comment créer des avatars automatiquement? Commencez par utiliser un artiste qui vous fait des avatars pour un certain nombre de modèles vrais, puis vous mettez ça dans la machine. Voici un paquet de... ça c'est le vrai visage, ça c'est l'avatar. Apprends tout seul quelle est la fonction qu'il y a au visage associé à l'avatar et imite le style de l'artiste. Et après, quand on donne un nouveau visage, il imite le style de l'artiste pour créer l'avatar qui ressemble à ça. Bon. Et l'exemple, ça va être tout le reste. Apprentissage machine pour les voitures automatiques, pour faire des drones qui dansent, qui résolvent le problème du pendule inversé, des prothèses qui s'adaptent automatiquement par essai-erreur aux caractéristiques du patient. Apprentissage, c'est déjà dans la souris qui sortait du labyrinthe de Shannon. C'est utilisé sous forme de Monte Carlo Markov Chain pour faire de l'analyse linguistique maintenant. Telle langue est associée à telle famille. C'est dans le diagnostic automatique. Et il y a même un site web qui tourne depuis un certain nombre d'années sur lequel il y a tous les défis qu'on donne aux spécialistes d'apprentissage machine, des fois des centaines, des fois de milliers. Si vous regardez sur ceux qui sont à l'affiche maintenant, Kaggle, vous verrez qu'il y en a qui ressemblent à certains que j'ai déjà dit, et d'autres qui sont de parfait mauvais goût, comme celui d'apprendre à partir d'un ensemble d'exemples qui avaient le plus de chances de survivre sur le naufrage du Titanic. Donc on donne un paquet de listes de gens qui sont morts en fonction des et tout, et vous devez apprendre par machine quelles étaient les caractéristiques qui vous feraient survivre. Bon, toutes sortes et toutes sortes de choses. Ici, j'ai indiqué l'une des techniques pour faire ça, c'est les réseaux de neurones, dans lesquels on imite un neurone, ça ressemble un peu à ce qui était présenté dans la conf aussi, avec des entrées qui sont combinées avec certains points, une combinaison, on applique une fonction d'activation, ça se déclenche si le signal franchit un certain seuil, et ça renvoie quelque chose. Et en combinant ces réseaux de neurones, ces couches de neurones, on arrive à faire des réseaux. Et l'idée, c'est que l'état, les différents poids, les différentes connexions, ce qui correspondrait aux synapses entre les neurones, on ne les connaît pas a priori, mais on part d'une configuration aléatoire, et on améliore avec des algorithmes aléatoires, jusqu'à arriver à quelque chose qui s'approche aussi près que possible de la fonction qu'on veut représenter. Ici, c'est tout simple. Mais une citation du bouquin d'interview que je vous mentionnais indique que les plus petits réseaux de neurones à succès dans les applications pratiques utilisent au moins 6 millions de paramètres. Et ça, c'est le absolutely smallest. Voilà. C'est big pas seulement dans les data, mais aussi dans les moyens qu'on met en œuvre pour représenter les fonctions. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Et juste dire que... Alors, une minute chrono. Ça, c'est l'algorithme de backpropagation des réseaux profonds. Il est tellement simple que, dans son principe général, qu'on le trouve souvent expliqué à étudiants qui maîtrisent même pas le calcul différentiel à plusieurs variables. Et si l'on en croit le buzz ambiance et la révolution en cours qui va transformer toute la société. Et ça pose un défi énorme à un défi énorme. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner une partie de nos prérogatives? Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle loi avec ça ou pas? Il y a des problèmes célèbres dans lesquels, par exemple, problème originel pour lesquels la loi de métropolis a été inventée, problème de transition de phase en physique, on ne sait toujours pas le résoudre, même si on sait montrer numériquement qu'il y a une transition de phase très précise, personne ne sait pourquoi elle se produit. Donc une différence énorme entre arriver à prédire et arriver à comprendre. Des controverses qui viennent avec, parce qu'évidemment, si ça repose sur tant de techniques mathématiques, vous avez des gens qui vont contredire. Et puis des grands enjeux, est-ce qu'on peut décrire la convergence? Est-ce qu'il y a des effets de seuil? Est-ce que dans certains cas, on y arrive? Est-ce qu'on pourra géométriser un jour et trouver des bonnes descriptions de ces méthodes? Sur le seul algorithme métropolis qui a été entièrement exploré par Diaconis Lebeau-Michel en 2008, on peut dire que le modèle était simpliste, l'analyse bestiale et les résultats inacceptables, au sens où les temps de convergence démontrés étaient beaucoup trop longs. Voilà. Beaucoup, donc, d'interrogations et beaucoup à suivre dans cette conférence. Voilà, je vous remercie.